Et on a parlé de paix, on a parlé d'amour, on a chanté ces choses-là. Mais vous savez, au-delà de le chanter, c'est de pouvoir les vivre. Et la question, elle pourrait être celle-ci ce matin. As-tu rencontré celui qui donne la paix? As-tu rencontré le prince de la paix? Si c'est le cas, on doit se réjouir ce matin. On doit être tellement heureux de dire « Seigneur, tu es le prince de la paix, tu vis à moi » et c'est vraiment extraordinaire. Si ce n'est pas le cas, vous avez toujours l'opportunité ce matin de vous tourner vers le prince de la paix. Que Dieu soit béni et glorifié. Ce matin, il y a un thème que je souhaiterais partager avec vous et qui en fait, voilà, vous allez voir, on va tous s'y retrouver parce que dans notre marche, dans la vie de tous les jours, quand on donne notre vie au Seigneur, il y a quelque chose qui va venir assez rapidement, c'est connaître la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu pour moi ? Vous ne trouvez pas que c'est un thème intéressant, que c'est un thème important ? Alors quand on parle de connaître la volonté de Dieu, il y a par exemple voilà, des choix, nous sommes tous confrontés à des choix, il y a certains choix qui sont mineurs et qui n'ont pas beaucoup de conséquences. Par exemple, ce matin, quand je me suis retrouvé devant la penderie, est-ce que je mets un costume bleu, noir ? Bon voilà, ça c'est mineur en fait. Qu'est-ce que je vais manger à midi ? Quoique, on ne sait pas si c'est mineur. Chacun se fera sa propre opinion. Les choix mineurs, par exemple, voilà, boire du café ou du déca, voilà, ce sont des choses tellement mineures. Mais il y a d'autres choix qui sont tellement importants. Et on a absolument besoin de connaître la volonté de Dieu. Vous allez voir au travers de ce partage que ce n'est pas simplement qu'un enseignement. C'est surtout une mise en pratique, quelques conseils pour trouver et connaître la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. Alléluia. Donc il y a des choix avec des conséquences. Et, par exemple, si je dis aux jeunes, on se pose la question, qui épouser ? Hier, j'en ai discuté avec quelqu'un. Ça, c'est un choix qui va avoir des conséquences tout au long de notre vie, parce qu'on n'a pas cette mentalité, nous, du monde, pour trois matins après se séparer, s'effondrer, un foyer sûr, voilà, solide, avec les enfants. Quelles études, quel métier envisager, où habiter ? Ça, ce sont des choix avec des conséquences. Alors, on a besoin de plonger nos regards dans la parole de Dieu afin de voir ce que la parole nous dit et quels sont les conseils qu'elle nous donne. Deux versets d'introduction dans Colossiens chapitre 1, versets 9 et 10. Colossiens 1, versets 9 et 10. Ici, c'est évidemment l'apôtre Paul qui fait un petit voilà, exposé de la raison de sa lettre. Pourquoi il est en train d'écrire aux Colossiens et il dit pour cela, donc c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander, et c'est cette partie qui est intéressante, que vous soyez remplis de quoi ? De la connaissance de sa volonté, comment ? En toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Alors ici, d'emblée, on voit que ce passage, il est situé au début de la lettre. Et en général, quand on écrit, au début, il y a la présentation, les formules de politesse, et puis quand le message est urgent, on passe de suite donc à ce qu'on veut dire. Ici, donc, l'apôtre Paul, il est en train de dire, au verset 9, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Ici, au travers de ce passage, alors je découvre que j'ai besoin d'être rempli de cette connaissance de la volonté de Dieu. Et ça tombe bien parce que Dieu veut nous la communiquer. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est à nous à plonger nos regards, à le chercher, évidemment, de tout notre cœur. Et il dit, ça ne s'arrête pas là, que vous soyez remplis. Donc, avant, c'est tellement logique, avant d'être rempli de la connaissance de sa volonté, il faut qu'on soit vidé de la nôtre. parce qu'il n'y a pas de mélange, en fait. On aimerait bien, hein, dans certaines situations. Donc, un peu de ci, un peu de là. Mais en fait, les choses de Dieu avec d'autres choses ne peuvent pas se mélanger. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Comment ? En toute sagesse. La Bible nous dit que celui qui manque de sagesse, la demande à Dieu qui va la lui donner. Amen. Il n'y a rien de finalement très compliqué. Mais le plus important, c'est de réaliser que nous manquons de sagesse. Tous les jours, on doit se présenter devant le Seigneur et dire « Seigneur, aujourd'hui, donne-moi ta sagesse. » Et non seulement ta sagesse, mais ton intelligence spirituelle. On parlait hier avec quelqu'un, hein, déjà, ne serait-ce que par rapport au témoignage. On sait que nous avons été appelés, nous sommes des relayeurs. Vous savez comment cette course en athlétisme, hein, donc on a reçu un relais. Et puis, à notre tour, c'est de le communiquer aux gens que nous côtoyons. Ça, c'est pour cela que le Seigneur nous a, entre autres, sauvés. Mais il y a des fois, le Seigneur va nous donner de l'intelligence pour nous dire, ben, c'est pas le moment de pouvoir discuter de certaines opinions, c'est le moment de te taire. Donc, c'est de l'intelligence spirituelle. Que Dieu fasse que nous soyons trouvés, chacun d'entre nous, avec donc cette connaissance de la sagesse et de l'intelligence spirituelle. Et regardez, hein, parce qu'en fait, il y a des conséquences. Pour marcher d'une manière digne donc, du Seigneur, ce qui sous-entend qu'il y a une manière que Dieu qui n'est pas agréable à Dieu. Donc si on est en dehors de ça, on n'est pas agréable à Dieu. Et de marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Regardez la suite. Hein. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Que nous puissions voir les fruits les uns des autres. Pas pour nous glorifier, mais pour simplement attester que le Seigneur est avec nous, qu'il marche avec nous. Et ces fruits, en fait, à un moment donné, on n'a pas besoin de les montrer. Ça doit pouvoir se voir. Donc, un bon fruit. Dans la Bible, il dit de porter des bons fruits, pas des beaux fruits. Parce que des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je ne sais pas, on va cueillir un fruit, il semble beau, l'aspect extérieur, et puis quand on croque, par exemple, une pomme, on va s'apercevoir que le goût n'est pas là. En fait, le plus important, alors s'il y a beau et bon, c'est encore mieux, mais qu'il soit bon. Et que ce fruit demeure en chacun d'entre nous. Alléluia, en toutes sortes de bonnes œuvres. Et regardez ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Donc, concernant cette volonté, c'est qu'il y ait une croissance par la connaissance de Dieu. J'espère que chaque jour qui passe, vous êtes en train d'acquérir une connaissance de qui est Dieu. Alors, c'est sûr qu'on n'en fera jamais le tour. Hein. On est d'accord avec ça ? Jamais. Hein. Ben, qui peut expliquer et dire, bon, voilà, en fait, Dieu... Alors, on peut, il y a des éléments, le Seigneur nous a donné des éléments, mais tout connaître sur Dieu, c'est impossible. Mais le Seigneur veut que nous puissions continuer de porter et de croître dans la connaissance de Dieu. Et le tout, c'est de demander au Seigneur, « Seigneur, quelle est ta volonté ?» Quand on parle de chercher la volonté de Dieu, j'aimerais d'emblée vous donner les mauvaises approches que l'on peut avoir. Sachant, je vais vous donner trois exemples, qu'en cherchant la volonté de Dieu, ça peut se passer comme ça. Mais il ne faut pas que ça soit, en fait, le facteur principal. Par exemple, la technique de la Bible au hasard. Je cherche la volonté de Dieu. J'ouvre la Bible, Seigneur, parle-moi. Alors, c'est déjà arrivé à quelqu'un que le Seigneur lui parle comme ça ? Bien sûr. Mais il ne faut pas que ça soit que cette méthode-là, vous comprenez bien. Hein ? Donc, parce que la technique d'ouvrir la Bible au hasard, elle peut-être pas marcher pour certaines choses. Regardez, un homme, un jour, cherchait la volonté de Dieu. Il ouvre la Bible au hasard, il tombe sur ce passage. Et Judas alla se pendre. Et là, il dit, mais c'est pas possible. Mais non, je me suis trompé. Quelque part, il affirme, il ouvre encore. Il dit, Seigneur, là, maintenant, parle-moi. Il dit, et toi, fais de même. Alors, vous voyez, la technique du hasard, Moi, ça m'est arrivé, hein, je vous promets, le soir de ma conversion. Alors, le verset, je ne l'ai plus en tête. Hein. Mais en fait, je me souviens, alors que j'avais cette expérience, la nouvelle naissance, je naissais donc de nouveau. Et là, quand j'ai ouvert la Bible, le verset qui est sorti de la Bible m'a impacté et c'était le message de Dieu. Mais ce que j'aimerais mettre en garde, c'est pas une technique qu'on doit appliquer jour après jour. C'est ça. Hein. Donc ensuite, il y a la technique de la paix intérieure. Alors évidemment que quand on cherche la volonté de Dieu, il y a un facteur qui doit être là, c'est la paix de Dieu. Si on n'est pas tranquille par rapport à une prise de décision, ça voudrait sous-entendre évidemment que le Seigneur n'est pas dans l'histoire. Et si le Seigneur n'est pas dans l'histoire, il va y avoir des conséquences terribles. Donc cette technique de la paix intérieure. Et malgré tout, ben, il y a des fois, en cherchant la volonté de Dieu, on s'aperçoit que ça peut paraître fou même. De se dire, mais pourquoi je vais entreprendre ceci ou cela? C'est pas possible, j'ai pas les moyens, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Mais il y a une paix surnaturelle qui vient. Donc, voilà. Et puis, il y a également la technique des signes. Or, pas l'animal, mais des signes de Dieu. La technique des signes. Seigneur, montre-moi un signe. Gédéon l'a fait, vous rappelez, les toisons. Mais il n'est jamais dit dans le passage que c'est des choses que nous devons faire et rechercher. L'exemple est là, c'est ce que je suis en train de vous dire. Certaines fois, le Seigneur, pour nous éclairer, voilà, il y a une toison qui est là, et puis le Seigneur nous montre. Mais il ne faut pas que ça soit, évidemment, le facteur principal de ces choses. Alors, le Seigneur nous montre des signes. Alors, le plus important, c'est que quand il nous montre des signes, c'est de ne pas les voir. Ou alors, quand ça ne nous convienne pas, nous disons, non, c'est pas ça, le Seigneur me parlera d'une autre manière. Soyons vraiment vigilants à ce que le Seigneur veut faire avec chacun d'entre nous. Donc, des mauvaises approches concernant la volonté de Dieu. Alors, la question suivante, c'est la volonté de Dieu, ça veut dire quoi? La volonté de Dieu, eh bien, la Bible parle évidemment de la volonté de Dieu de différentes manières. Il y a tout d'abord, il y a essentiellement deux manières dont la Bible parle de la volonté de Dieu. La première, c'est la volonté souveraine et secrète de Dieu. Premier point. La volonté souveraine et secrète de Dieu. Éphésiens, chapitre 1, verset 11. Éphésiens 1, 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. J'aurais espéré un cri de joie, dire « Waouh ! J'ai reçu un héritage spirituel, alléluia, gloire à Dieu. » Mais bon, ça viendra un jour. Aussi devenu héritier, ayant été prédestiné, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ce verset ici, il est en train de parler finalement de la volonté souveraine de Dieu. Dieu a prédestiné, il nous a prédestiné à ce qu'un jour, nous soyons sauvés. Il nous a prédestinés au salut. Ça, c'est un mystère. Il y a certaines personnes qui croient que, par exemple, il y a ces enseignements qui sont là et qui disent ben, si le Seigneur donc a destiné certaines personnes pour le bien, ça sous-entend qu'il a prédestiné d'autres pour le mal et pour la perdition. Alors, quand on me parle comme ça, la première réponse, je dis, mais c'est en fait, ce que tu me décris, ce n'est pas le Dieu que je connais. Le Dieu que je connais, c'est un Dieu d'amour qui va toujours proposer à quelqu'un de pouvoir se tourner vers lui. Et tous ceux et celles qui vont se retrouver en enfer pour l'éternité l'auront choisi. Donc, ça, c'est pas trop dans la volonté de Dieu, hein, même, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Prédestiné. Et moi, quand je réalise que avant la fondation du monde, le Seigneur m'avait déjà prédestiné, alors à moi monte, hein, encore une fois, une joie de dire Seigneur, mais finalement, hein, également de l'humilité. Mais qui je suis? Qui je suis pour hériter ces choses-là? Mais Dieu, dans sa grâce, il nous les accorde. Et si quelqu'un, ce matin, n'a pas fait ce pas, ne s'est pas engagé avec le Seigneur, C'est le jour de l'Éternel, un jour de salut, un jour de délivrance du pouvoir du péché. Et aujourd'hui, plus que jamais, celui qui entend ces choses-là, qui n'endurcisse pas son cœur, mais qu'au contraire, il obéisse à ce que le Seigneur veut faire pour lui. Et, hier, on a chanté avec les jeunes, « Il te tend la main ». Quel beau résumé de la volonté de Dieu. Il tend la main de différentes manières. Et ça, c'est l'amour de notre Seigneur. Alléluia. Ça, c'est la volonté, donc premier point, la volonté souveraine et secrète de Dieu. Et puis, il y a la volonté morale et révélée. La volonté morale et révélée. Matthieu chapitre 7, verset 21. Regardez. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors ici, on s'aperçoit que finalement, la volonté a une incidence sur la vie éternelle. Chercher la volonté de Dieu, ici, on le découvre. Ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». En fait, ce n'est pas ceux qui ont un aspect chrétien. C'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ, qui marchent fidèlement dans ses voies, qui veulent plaire au Maître, et par conséquent, le Seigneur, il va nous donner donc le Saint-Esprit qui va venir en nous pour nous aider à marcher, pas simplement à trembler. Alors, je prie qu'il y ait des réunions où le Seigneur vienne nous déstabiliser. Vous ne trouvez pas que ça serait tellement extraordinaire ? Nous déstabiliser, peut-être dans notre confort, par des choses que lui seul est capable de faire. Des fois, je me fais la réflexion, et moi, je me dis, en tant que pasteur, si par exemple, à un moment donné, je lis certains versets dans la Bible, si j'avais été responsable pour conduire telle ou telle réunion, et comment le Seigneur a agi, comment j'aurais, moi, réagi ? J'aurais sûrement arrêté, attention, ça déborde. Attention, Dieu est un Dieu d'ordre, il faut que ça soit carré. On est d'accord avec ça, hein, bien sûr. Et quand il y a l'action du Saint-Esprit, que nous soyons ouverts à dire, Seigneur, que tu puisses agir comme bon te semblera et pas comme cela me convient. Ça, c'est vraiment important. Hein. Parce que sinon, alors, c'est sûr, hein, toutes les églises ici de Toulouse ont certaines marques, certaines façons de faire. Chacun trouve, on va dire, son compte. Mais ce qui nous unit, c'est de louer le Seigneur, de laisser la place au Saint-Esprit, que le Seigneur révèle certaines choses, qu'il vienne nous parler, qu'il vienne se révéler, qu'il y ait des conversions, des prodiges, des signes, des miracles. Alors, ça va pas être peut-être de façon spectaculaire, à ce que les gens tombent au sol, et même si Dieu le fait, gloire à Dieu, bien sûr. Et peut-être sur sa chaise, à un moment donné, on vit quelque chose de fort, quelque chose de puissant, et puis on voit les fruits de cela à un moment donné, que Dieu soit béni, amen. Et nous voulons poursuivre donc ces choses-là. Ça, c'est la volonté morale et révélée de Dieu, parce qu'il dit que c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Dites-moi, si cette volonté n'était pas révélé, on serait bien embêté par rapport à Matthieu 7. Ça sous-entend que Dieu veut nous la révéler, cette volonté. Il a ce désir de nous révéler la volonté. Ici, la volonté de Dieu est quelque chose que l'on peut faire, c'est-à-dire que l'on peut mettre en pratique. Savoir des choses, c'est important. Mais les mettre en pratique, c'est primordial. Regardez un exemple. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 nous dit « Ce que Dieu veut, alors ici on découvre que c'est la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Et ça ne s'arrête pas là, il dit « C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. » Alors ici, on n'a pas besoin de demander la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu, on la découvre, Dieu veut votre sanctification. Et vous savez que la sanctification a plusieurs définitions, et notamment celle de mise à part. On est mis à part pour le Seigneur. Il y a également celle de pureté. il n'y a rien d'impur qui rentrera dans la présence de Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur nous exhorte à nous purifier, parce qu'il est dit dans un verset, que celui qui se purifie encore, sous-entendu, tant qu'il y en a besoin, et autant que nous serons ici-bas sur terre, on a besoin de se purifier à tous les niveaux, par les choses que nous pouvons faire, par les pensées, la souillure des pensées. Jésus vient avec un message bouleversant, on les comprend un peu, ces pharisiens qui étaient bouleversés par les paroles de Jésus. Il dit, mais la loi dit que... Et Jésus dit, mais moi je vous dis que si déjà tu émets l'hypothèse de quelque chose, tu es déjà coupable. Dites-moi combien de pensées par jour? Est-ce qu'elles sont toutes bonnes? Donc, on doit tous s'humilier et dire, Seigneur, on a besoin de ta grâce. On a besoin de sanctification. J'ai besoin de sanctification encore et toujours. Alléluia. Donc dans ce verset de Thessaloniciens, c'est la volonté de Dieu, elle est claire. Il veut que l'on grandisse en sainteté et que l'on fuit, parce qu'il y a des choses à fuir. Il y a des choses où on ne doit même pas s'approcher. L'immoralité sexuelle, aujourd'hui plus que jamais, vous avez vu, on est bombardé. On ne peut pas regarder un programme, donc on doit choisir les programmes. Que le Seigneur nous aide à ne pas plonger les regards. Et cela fait référence à ce que Dieu attend de nous. Dieu attend quelque chose de nous. Il attend notre sanctification. Et je m'inclus, évidemment. Il attend la sanctification avec ses exigences morales. Ça, c'est peut-être quelque chose où on a un peu de mal. Dieu est amour, mais Dieu est exigeant. Ou alors, ça ferait de lui un Dieu négligent. Et moi, personnellement, d'un Dieu négligent, j'en veux pas. Un Dieu exigeant. Il exige des choses de notre part, à la manière dont nous devons vivre en tant que chrétiens. Et des fois, il faut rectifier certaines choses. Des fois, quand quelqu'un semble s'éloigner de la volonté de Dieu, notre responsabilité, c'est d'avertir. Attention, danger. Après, chacun est responsable. La Bible nous le dit, vous vous rappelez Ézéchiel, Ézéchiel 3, où il est dit que nous sommes les sentinelles. La sentinelle, son devoir, c'est d'avertir. Et attention, il y a un danger. Si on ne le fait pas, vous savez qu'il y a des conséquences. On va nous redemander le sang. On aura été coupable. Je vais aller plus loin, on aura même été complice. Alors on doit se dégager de tout ça. Alors, une fois qu'on a dit, on a exposé finalement la volonté de Dieu, ce qu'elle est, puis concernant la volonté de Dieu, la Bible en parle, on l'a vu, et quel est le lien entre la Bible et la volonté de Dieu et nos prises de décision. Nous avons besoin de nous rappeler que la Bible est suffisante pour tout. Si un jour, quelqu'un cherche la volonté pour quelque chose de spécial, quelque chose d'important, vous avez tout là. Vous avez tout là. Il s'agit de l'ouvrir, de chercher et de ne pas se dire ça ne me convient pas. Mais de se laisser travailler par le Seigneur. Regardez le psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. C'est le Seigneur qui parle. Par le biais du psalmiste, il dit, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. » Ça, c'est un verset qui est rassurant. Ce verset donc qui nous dit, « Je t'instruirai. » C'est-à-dire, le Seigneur est en train de dire, je renouvellerai ton intelligence. Notre intelligence, elle a besoin d'être constamment renouvelée encore et encore. Je te montrerai la voie. En fait, il est en train de dire, je te montrerai la direction que tu dois prendre. C'est ça, la volonté de Dieu. Ça, c'est les promesses du Seigneur. Il dit, je te conseillerai. Conseil pour les problèmes particulier. Le Seigneur veut nous conseiller. Alors quelqu'un va dire cet adage, les conseillers ne sont pas les payeurs. Mais ça ne se rapporte pas à Dieu parce que Dieu, il est conseilleur et il a été celui qui a payé. Alors il nous donne des conseils. Et encore une fois, derrière ça, on voit l'amour du Seigneur. Et il veut nous conseiller. Et regardez, j'aurai les regards sur toi. Que procure les épreuves et les difficultés qu'on traverse, ça va automatiquement procurer un sentiment d'abandon. Vous l'avez remarqué ? Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Dès qu'il y a quelque chose qui est bouleversé, on commence à regarder au fond de son cœur. S'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas, on est en train de se dire, Seigneur, voilà, un sentiment d'abandon. Mais j'aimerais vous dire que c'est simplement qu'un sentiment. Parce que Dieu n'abandonne jamais personne. On le voit au travers de ce psaume 32, verset 8, qui doit être marqué au fond de notre cœur, où le Seigneur dit, j'aurai les regards sur toi. Pour vous donner une image, en fait, c'est nos enfants, ils naissent, ils suivent donc un processus de croissance. À un moment donné, ils commencent à marcher. Et quand ils commencent à marcher, ben, on les laisse faire quelques pas, mais on est derrière, en fait. Nos regards sont sur eux. Et dès que ça va tomber, en général, bon, il faut être proche et quand même et laisser aussi la responsabilité. Des fois, c'est le fait de tomber qu'on peut se relever, mais c'est exactement ce que dit ce verset. J'aurai les regards sur toi. En fait, il n'abandonne jamais personne. Il est proche de chacun d'entre nous. Et ça, nous devons en être convaincus plus que jamais. Alléluia, je te conseillerai. Et ça évidemment, ça se rapporte au conseil pour les problèmes en particulier. La Bible est suffisante si on cherche la volonté de Dieu concernant le salut. Dans 2 Timothée, il est dit que Dieu veut que tous les hommes... Il soit quoi ? Il soit sauvé. Sauvé de quoi ? De la perdition, du pouvoir, du péché. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et cette Bible, elle est capable de venir donc nous parler au moment où nous en avons le plus besoin. Il y a une puissance qui se dégage dans cette parole, c'est la parole de Dieu qui est extraordinaire. Un jour, quelqu'un m'appelle et me dit « Pasteur, est-ce que... » Alors, des fois, on a des requêtes un peu. Est-ce que vous faites les baptêmes comme dans la Bible ? Alors, la question, elle est déstabilisante. Hein ? On répond quoi ? On ne connaît pas la personne ? Eh bien, écoutez, voilà qui vous êtes. Je souhaiterais vous rencontrer. Alors, d'abord, je lui ai répondu oui, on fait les baptêmes comme dans la Bible. Il me dit, parce que je souhaiterais me faire baptiser. Je dis, bon, il faut qu'on se voit, voir éventuellement votre expérience. Elle me raconte, donc on se voit quelques jours plus tard, elle me raconte son expérience, elle me dit, j'étais dans l'ésotérisme, dans toutes les religions, et il y avait un vide dans mon cœur, et ça on le sait, hein, quand il n'y a pas Dieu, il y avait un vide dans mon cœur, je cherchais Dieu dans les religions. Alors je les ai toutes essayées. Et puis, j'étais quand même malheureuse. Et puis, un jour, quelqu'un m'a donné une Bible. Regardez, hein. Comme quoi cette parole, elle est vivante. Elle a commencé à lire la Bible, normalement, hein, première page, la table des matières. Puis la Genèse, ça peut aller, c'est des livres historiques. Genèse, Exode, à Lévitique, hein, elle a dû commencer à se gratter la tête. Mais elle était quand même motivée. Elle a lu l'Ancien Testament. Elle arrive dans les évangiles. Quand elle arrive dans les évangiles, elle ferme la Bible, elle demande pardon au Seigneur, elle est convaincue de péché. Extraordinaire. La parole de Dieu, ce qu'elle est capable de faire. Donc tout ça pour étayer le propos que cette parole est suffisante pour toute chose. Évidemment, alléluia, concernant le salut et la vie chrétienne. Quand on cherche des directions, le Seigneur nous les montre. La Bible m'équipe de la sagesse, on l'a vu, qui vient de Dieu. Et également cette Bible, cette parole de Dieu, elle est suffisante pour découvrir les priorités de Dieu. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on est constamment sollicité par un fameux bien-être que l'on doit trouver. Vous avez remarqué, lors des démarchages téléphoniques, tout est axé sur le bien-être. La Bible, elle est claire par rapport à ça. Hors de Dieu, il n'y a aucun bien-être. Parce que le péché... Et là, il est au fond du cœur, et donc forcément, ça crée certaines choses dans notre cœur qui nous éloignent de Dieu. Alors, quand on vient au Seigneur, quand le Seigneur comble notre cœur, quand on fait donc cette rencontre personnelle, eh bien, en fait, on découvre qu'il y a des priorités de Dieu. Dieu veut la priorité dans nos vies. La question, elle est celle-là. Un avion qui passe. Est-ce que nous sommes dans la vérité? Est-ce que notre priorité, c'est d'abord Dieu? Ou alors, quand on s'approche de Dieu, Seigneur, donne. Seigneur, donne encore et encore. Hier, je bénis Dieu parce que les jeunes étaient réunis à Toulouse-Ouest, dans trois églises, Toulouse-Ouest, Colomiers et puis nos jeunes. Puis, c'était soirée louange et témoignage. J'écoutais certains témoignages, alors sans dénigrer quoi que ce soit, comprenez-moi bien. Hein. Les témoignages, c'était excellent, de ce que Dieu peut accorder. Et Dieu accorde des choses. Mais les témoignages sur ce que Dieu veut pour moi, que je m'abstienne de certaines choses, que je donne ma priorité à Dieu pour qu'il soit au centre de ma vie, alléluia, et finalement, c'est tout ce qui compte. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, on est forcé de constater que de plus en plus de chrétiens vivent pour leur bien-être, leur confort. Et la priorité, ce n'est plus Dieu ou les choses de Dieu, c'est d'abord moi ce que ça peut m'apporter, et puis le reste, on verra. Si on est dans cette position, il faut qu'on revienne. C'est impératif qu'on remette Dieu au centre. Il y a une mise en garde, par contre, quand on parle de la puissance de cette parole qui est suffisante pour tout, on l'a vu au travers de quelques exemples, il y a cette mise en garde d'extraire les versets de leur contexte pour leur faire dire ce qu'on ne dit pas, ce que la Bible ne dit pas. Ça, c'est vraiment un danger. Hein. Et aujourd'hui, plus que jamais, par rapport à certaines choses, on sort des versets du contexte. Vous vous rappelez, un jour, je vous avais dit que dans la Bible, s'il y a quelqu'un qui veut essayer de contredire, tombe sur ce verset, il dit, ben, vous savez quoi, la Bible dit et Dieu dit que Dieu n'existe pas. Alors si on prend ce verset et qu'on l'isole, vous le lirez, c'est dans la Bible. Vous semblez étonné, mais c'est la réalité. Mais en fait, la suite du verset dit, juste avant, l'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Alors si on prend que la seconde partie du verset, on peut faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Et aujourd'hui, en fait, on voit que ça prolifère. Oui, mais la parole de Dieu dit ceci. Oui, la parole de Dieu dit cela. Prenez-le dans le contexte. Dans quelles circonstances ce verset était écrit, ce passage, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il cherchait. Et là, vous allez voir donc toute, finalement, la volonté de Dieu, ce que le Seigneur poursuivait. Alléluia. Amen. Il y a des principes pour prendre des décisions concernant la volonté de Dieu. On l'a vu. Considérez ce que la Bible dit. Hier, on faisait un cours avec quelqu'un, une formation au baptême. Et puis, je citais ce verset de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. 2 Corinthiens 6, 14. Des fois, on vient me voir, ça m'est déjà arrivé, « Pasteur, voilà, j'ai dans mon cœur, je côtoie quelqu'un, il n'est pas au Seigneur. Est-ce que vous pouvez prier pour moi si c'est la volonté de Dieu ?» Moi, je dis « Mais je ne peux pas prier pour vous. » Parce que la Bible dit le contraire. La Bible nous dit que la volonté de Dieu, c'est qu'on ne peut pas mélanger, qu'on ne peut pas se mettre sous un joug étranger. C'est ce que dit ce verset. Alors quand on vient me voir pour me dire, « Pasteur, il y a ça dans mon cœur », mais déjà on est mal engagé. Parce que la Bible est suffisante pour, encore une fois, nous parler. Donc ça, c'est les principes. Considérez ce que la Bible dit et c'est suffisant. Un autre principe et conseil pour chercher la volonté de Dieu, on doit écouter les autres. Les frères et sœurs d'une certaine maturité qui sont passés par des circonstances, qui sont sages, qui sont intelligents pour demander conseil, les consulter parce qu'ils ont cette expérience et également cette sagesse pour nous aider à éviter les pièges. Proverbe 24, verset 6, regardez. Proverbe 24, verset 6. « Car tu feras la guerre avec prudence. » La seconde partie. « Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Quand on ne sait pas, il faut qu'on aille voir les frères et sœurs. Alors, quand je dis ça, j'ai bien précisé tout à l'heure, des frères et sœurs matures qui sont sages. Parce que vous vous rappelez, il y a un certain roi, je les confonds toujours, Roboam ou Jéréboam, je ne sais plus, qui, à un moment donné, il cherchait le conseil de Dieu et puis il va demander à ses amis. Et ses amis vont dire, ouais, mais ceci, cela, c'est un peu farfelu. Et puis, il va demander donc à d'autres qui étaient dans la maturité et eux vont donner la pensée de Dieu. Il n'était pas satisfait, il a plutôt écouté ses amis. On sait comment ça s'est terminé. Une catastrophe. Donc, besoin absolument de demander, de prier, d'être conseillé par les uns et les autres. Alors, tous ceux et celles qui sont dans la maturité, qui sont dans la sagesse, vous avez une responsabilité. Nous avons une responsabilité, c'est de montrer le chemin et ce que dit la parole. Alléluia. Un autre principe, c'est prendre en compte ma conscience. Parce que le Seigneur, à un moment donné, va venir la réveiller, va venir nous secouer, notre conscience, l'être donc régénéré, qui va dire « attention, danger !» Et si on fait taire cette voix, on va en subir les conséquences. Aujourd'hui, je peux dire, par mon expérience, combien sont tombés. Et quand ils tombent, parce que ça, c'est l'esprit du monde, quand quelqu'un tombe, qui semblerait être un rival, il y a comme une réjouissance. Mais en fait, nous, quand quelqu'un tombe, on pleure. Parce que ce sont nos bien-aimés, nos frères, qui sont tombés, ils se sont laissés avoir. Et la Bible nous met en garde. Toi qui es debout, prends garde de ne pas tomber. Alléluia. Donc, le Seigneur veut nous parler également par notre conscience pour évaluer notre motivation. Je vous promets, dans toutes les églises où j'ai été, dans tous les bureaux, j'en ai entendu, pasteur, j'ai cherché la volonté de Dieu et Dieu m'a montré que... Alors, quand on me le dit comme ça, et, ok, qu'est-ce que je dis, moi, alors? Du coup, j'ai plus rien à dire. Sauf que des fois... La base n'est pas bonne. Ce que je vous disais par rapport au mariage, le Seigneur ne peut pas le tolérer, donc qu'on se mette sous un joug étranger. Et donc quand la base, elle n'est pas bonne, on peut chercher la volonté de Dieu, on ne la trouvera pas. Et comme on ne la trouve pas, on va s'en créer une. Et on va l'attribuer à Dieu. On va se dire, mais Dieu m'a dit que... Impossible. Encore la semaine dernière, quelqu'un... Il disait, j'ai cherché la volonté de Dieu, j'ai prié, j'ai jeûné, je ne doute pas de ça. Mais peut-être que les oreilles étaient fermées, les oreilles du cœur peut-être, étaient fermées parce qu'on poursuivait un but. Et ça, c'est vraiment dangereux. Alléluia. Donc, une fois que le Seigneur ensuite nous révèle sa volonté, un autre principe, dernier principe, il y en a plusieurs, c'est avoir le courage de prendre la décision. Parce que des fois, on sait des choses, mais on manque de courage. L'apôtre Pierre, il est sorti de la barque. Hein, quand il y avait le film d'animation, là, Le Roi des Rois, quand il sort, j'ai pensé à ça. Il est sorti de la barque, il faut du courage. Hein, il faut du courage. Alors, à un moment donné, bon, il s'est enfoncé. Mais aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie de lancer ce cri. Où sont les chrétiens courageux? Où sont les chrétiens qui se dépouillent, qui vivent pour la gloire de Dieu et pas pour leur propre confort? C'est une question, chacun répond pour lui. Nos choix, nos décisions que nous prenons, si elles sont mauvaises, elles auront des conséquences. Vous vous rappelez du fugueur? Vous connaissez le fugueur dans la Bible? Jonas. Dieu lui dit, homme de Dieu, Dieu lui dit, donc tu vas aller à Ninive, j'ai un plan. Je veux me servir de toi et il va y avoir un réveil extraordinaire. Tu vas aller à Ninive. Et lui, il part à Tarsis, de l'autre côté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, les cartes qu'ils avaient pour naviguer, Tarsis, c'était l'endroit le plus loin. En fait, comme il ne voulait pas rentrer dans la volonté de Dieu, il est allé à l'opposé, au plus loin qu'il connaissait, pour se dire « je suis tranquille ». Ses choix, par rapport à sa propre volonté, ont eu des conséquences sur tous ceux qui étaient dans le bateau. Et des fois, on peut embarquer, combien de fois je l'ai vu, des familles entières, dans des prises de décision. Ce n'est pas la volonté de Dieu, on avertit, puis on continue dans la même direction, et ça c'est terrible, les dégâts sont terribles. Alors on prie, parce qu'on aime les personnes, on s'attache aux personnes. On a voulu nous faire croire que le chrétien n'a pas de sentiments. Pas vrai, hein, il y a des sentiments qui sont là, qui se créent. Alors oui, nos choix, nos décisions, il y a des conséquences. Nos choix peuvent avoir des conséquences indésirables sur notre vie et sur celle des autres. Les décisions sont comme des graines plantées en terre qui vont porter soit du bon, soit du mauvais fruit. Quand on prend des décisions. Donc chercher la volonté de Dieu, on voit que c'est vraiment important. On revient, et je finis par là, avec le psaume 32, et qu'on puisse garder et nous rappeler quand on cherche la volonté de Dieu de ce passage. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Au travers de ce passage, ce qu'on découvre, c'est que le plan, il est détaillé déjà. Je t'instruirai, je te montrerai. Son plan, il est continu. Tant que nous sommes ici bas sur terre, nous devons poursuivre la volonté de Dieu et son plan. Le plan de Dieu, la volonté de Dieu, elle nous est avantageuse. Vous vous rappelez de Josué chapitre 1, verset 8. Il dit ben, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Afin que tu aies du succès. Dites-moi, qui ne veut pas avoir du succès dans sa vie? Personne, en fait. On veut tous réussir notre vie. Alors, ce verset nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, c'est-à-dire de ton cœur. Et le plan, il nous est avantageux pour chacun d'entre nous. Nous aurons du succès et de la réussite. Un amen timide. Mais un amen quand même. La volonté de Dieu, elle est toujours bonne et elle est parfaite. Toujours. Toujours. La volonté de Dieu, elle est bonne, elle est parfaite. Et Dieu nous exhorte à connaître sa volonté. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Peut-être que quelqu'un avait besoin d'entendre sûrement ce matin, cherche la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi? On a vu quelques principes qui sont là. Il faut les appliquer. Plus que jamais, afin d'être dans la volonté de Dieu. Parce que quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, vous comprenez que si on se sort de la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas être avec nous, il ne nous accompagnera pas. Nous devons nous aligner. Seigneur, que je sois dans ta volonté, alléluia, pour que tu puisses te glorifier. Amen. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur. Je te remercie pour ta parole, Seigneur, pour ce thème tellement important. Connaître ta volonté. Seigneur, merci parce que tu nous la révèles. Et Seigneur, tu nous demandes de la chercher. Seigneur, tu dis que tu vas nous instruire. C'est que sous-entend que tu vas nous enseigner. Seigneur, pardonne-nous quand nous ne comprenons pas. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur mon Dieu, quand nous ne t'écoutons pas. Seigneur, mais que ce matin, nous puissions prendre conscience que tu as une volonté pour chacun. Seigneur, qu'il n'y ait personne qui s'endurcisse Seigneur mon Dieu, de quoi que ce soit ce matin, mais qu'au contraire, nous tous, nous capitulions à continuer, à rester dans ta volonté, Seigneur. Je te prie pour celui ou celle qui cherche une direction pour un travail, une direction pour quelque chose d'important. Seigneur, parle. Seigneur, parle, Seigneur mon Dieu, dans les cœurs. Révèle, Seigneur mon Dieu, quelle est ta volonté. Aimer des convictions profondes. Seigneur, je te remercie, Seigneur mon Dieu, parce que tu vas le faire. Seigneur, je te prie également pour tous les frères et sœurs qui ont cette maturité. Seigneur, donne-leur la sagesse et l'intelligence nécessaires pour communiquer ta volonté. Également, Seigneur mon Dieu, ce discernement de la voix du Saint-Esprit et, Seigneur mon Dieu, d'apporter ce que toi tu veux pour les uns et les autres. Mon âme te bénit et te glorifie, Seigneur mon Dieu, pour toutes les bonnes choses. À toi toute la gloire. Merci notre Dieu. Amen et amen.